9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Ce qui est arrivé cette semaine, c'est d'abord pour la future réforme des retraites. Un changement de rythme, il y aura encore des mois de concertation et un changement de pied.
Je préfère qu'on trouve un accord sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge. Parce que si vous avez un accord sur la durée de cotisation, quand vous rentrez tard dans la vie professionnelle, vous finissez plus tard, mais généralement c'est que vous êtes rentré tard parce que vous avez fait des études. Et quand vous commencez tôt, vous cotisez plus longtemps, donc vous partez plus tôt. Ça me semble plus juste.
Emmanuel Macron, lundi soir sur France 2, la durée de cotisation plutôt que la fixation d'un âge pivot, un âge sans décote à 64 ans, voilà qui fait bondir le patronat et son président Geoffroy Roux de Bézieux.
Moi, je ne me vois pas expliquer à des jeunes cadres qu'on embauche à 24 ou à 25 ans qu'il faut partir à 70, 71 ou à 72. Je crois que c'est ni juste ni entendable.
Quelle réforme et à quelle échéance? Mon premier invité sera Laurent Pietraszewski, député LREM du Nord, chargé du dossier retraite. Qui a tué nos insectes? Depuis une vingtaine d'années, les abeilles meurent davantage, les campagnes sont plus silencieuses et les pare-brises de nos voitures demeurent propres. Et le monde devint silencieux, c'est le titre du livre-enquête du journaliste Stéphane Foucard, « Comment l'agrochimie a détruit les insectes ». Peut-on critiquer une religion sans dénigrer ses pratiquants? Pour avoir dit qu'on a le droit d'être islamophobe, comme on a le droit d'être catophobe, le philosophe insoumis, penseur de la laïcité, Henri Peignaruis, se fait traiter de raciste sur les réseaux sociaux. Il viendra répondre et s'en expliquer. Au sommaire également, la rentrée littéraire avec un formidable premier roman, Le bal des folles, où l'histoire des femmes internées à la Salpêtrière dans les années 1880, livrées aux expériences du docteur Charcot, livre magistral, à peine paru, déjà récompensé, Victoria Mas, révélation de 31 ans, viendra nous en parler.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Bonjour Laurent Pietraszewski.
Bonjour Patrick Cohen.
Député LREM du Nord, d'où vous nous parlez depuis le bureau européen de Lille aux côtés de Lionel Gougelot, ambassadeur du texte sur les retraites, en attendant sans doute d'en être le rapporteur. Parlez-nous d'abord du calendrier de cette réforme dont on pensait qu'elle était sur les rails depuis la remise du rapport Delevoye au mois de juillet. Bah non, encore un an, peut-être un an de concertation à dit Gérald Darmanin, quelques mois à corriger Édouard Philippe. Ensuite, ça va nous mener où, Laurent Pietraszewski?
Ouais. Édouard Philippe a rappelé, Patrick Cohen, hier, qu'on prendrait le temps, j'ai envie de dire, nécessaire et suffisant à cette concertation.
C'est comme le fût du canon.
Je ne sais pas si c'est comme le fût du canon, mais en tous les cas, si on veut réussir une transformation de fond pour notre société, c'est-à-dire si on veut réussir à recréer la solidarité intergénérationnelle et faire que cette solidarité intergénérationnelle, elle s'exprime aussi de façon interprofessionnelle, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, bien sûr, de discuter avec les acteurs du dispositif de retraite actuel, que sont les partenaires sociaux, mais aussi prendre le temps, prendre le pouls des Français, les écouter sur le sujet, et c'est ce qu'a rappelé le Premier ministre hier.
Il faut parler à tout le monde, il faut discuter avec tout le monde, mais il a fait quoi, Jean-Paul Delevoye, pendant un an et demi?
Bien, il a fait de la concertation, il a fait de la concertation très élargie. D'ailleurs, vous avez relevé, y compris sur Europe 1, que c'était une concertation de qualité. D'ailleurs, l'ensemble des partenaires sociaux ont souligné la qualité du dialogue qu'ils ont pu avoir avec le haut-commissaire en charge de ce dossier. On la prolonge. Maintenant, nous avons les propositions du haut-commissaire. Donc, on peut la prolonger sur la base de ces propositions. Et c'est cela aussi qui est intéressant, parce que maintenant, nous pouvons débattre. Et vous avez souligné tout à l'heure l'intervention du président de la République en début de semaine. C'est bien l'ouverture de ce débat que consacrent les propos du président de la République. Tout est sur la table. Nous pouvons discuter de tout avec les Français dans les semaines et les mois qui viennent.
Discuter et avancer prudemment. Je rappelle que la réforme devait à l'origine être bouclée l'an dernier, puis on avait dit ce sera en 2019. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut dire, pour revenir au calendrier, que ce sera forcément après les municipales de mars prochain, Laurent Pietraszewski?
Je ne sais pas si l'enjeu, c'est de se fixer des deadlines. Lorsqu'on dit et lorsqu'on fait une concertation large, et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous allons lancer aussi au niveau du groupe des députés de La République En Marche, lorsque nous faisons une concertation large, eh bien, je ne pense pas très opportun de se mettre une deadline précise, si ce n'est de se dire que voilà, dans ces quelques mois, c'est le temps qui sera nécessaire pour écouter et remonter. Alors,
non, mais la question, elle est aussi politique et électorale. Est-ce que la majorité peut prendre le risque d'abattre ses cartes sur un sujet aussi explosif avant les municipales?
Je crois que si le dossier est prêt, si le projet de loi est prêt, si le large consensus auquel nous voulons parvenir est obtenu, il n'y a pas de raison que ce dossier ne puisse pas être déposé, que ce projet de loi ne puisse pas être présenté au Conseil des ministres et déposé sur le bureau de l'Assemblée. Mais c'est bien la dynamique de consensus, la dynamique d'écoute que nous allons mettre en œuvre qui donnera le timing.
Bon, on a épuisé les questions de calendrier. Laurent Pietraszewski, député du Nord chargé du dossier des retraites, vous restez avec nous après une courte pause. On va parler du fond de la réforme et de ce débat entre l'âge pivot et la durée de cotisation. À tout de suite.
Europe 1. Le samedi de 9h à 10h, vous retrouvez C'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen.
Avec Laurent Pietraszewski, député de la majorité chargé de porter la future réforme des retraites qui devait reposer sur l'instauration d'un âge d'équilibre, un âge pivot à 64 ans qui aurait permis à tous d'arrêter de travailler à ce moment-là sans subir de pénalités sur leurs points. C'était la préconisation du rapport Delevoye. Mais le président Macron ne préfère pas, il préfère jouer sur la durée de cotisation. Il l'a dit lundi, on l'a réentendu tout à l'heure. Le cap est fixé, Laurent Pietraszewski ?
Eh bien, le cap est fixé, la parole du président de la République est importante, mais vous avez entendu sa préférence. Je crois que ça montre surtout notre volonté d'ouvrir le débat. Ça montre la volonté du président de la République d'ouvrir le débat. Alors certes, nous avons un président de la République qui est visionnaire plus que gestionnaire, et c'est en cela qu'il montre le cap. Cela étant, ce qu'il faut entendre, c'est que tout est sur la table et que la négociation, les échanges, la concertation, ils seront très larges et ils seront sur tous les sujets. Moi, je pense que dans les propositions qui étaient faites par le haut-commissaire, il y avait certes la notion d'âge d'équilibre, vous avez expliqué tout à l'heure ce qu'il en était, mais il y avait aussi un certain nombre de notions qui se rapportaient à la durée de cotisation, notamment pour prendre en compte les carrières longues, puisque vous savez que le dispositif de carrière longue dans les propositions du haut-commissaire est maintenu, mais également tout ce qui touche à la pénibilité, puisque la pénibilité est un élément qui permet de partir plus tôt lorsqu'on a subi la pénibilité dans son travail, et puis également le minimum contributif, puisque une des grandes propositions, d'ailleurs, qui a été mise sur la table par le président de la République, est d'avoir un minimum, ce qu'on appelle le minimum contributif, un minimum de retraite, pour être simple, à 1 000 euros, à 85% du SMIC. Et ça aussi, c'est lié à des notions de durée. Donc vous voyez que c'est sans doute un petit peu plus complexe que de poser des notions de durée et des notions d'âge d'équilibre. Ce qui est important de comprendre, c'est que, y compris dans les propositions actuelles du haut-commissaire, il y a déjà un mix des deux notions.
Jouer sur la durée de cotisation, comme l'a dit le président de la République, la durée de cotisation aujourd'hui, c'est 41 ans et demi. Elle va passer progressivement à 43 ans à partir de l'an prochain. Jouer sur cette durée, ça veut dire fatalement l'augmenter, Laurent Pietraszewski ?
Aujourd'hui, il y a déjà une réforme qui est dite réforme Touraine, qui est en application et qui amène, effectivement, vous l'avez dit,
à 43 ans en 2035, oui.
Voilà, à travailler plus longtemps, notamment pour les générations, c'est très progressif et ça se terminera en 2035 avec, pour les générations qui sont nées en 1973 et après, le fait de devoir avoir 43 ans de cotisation. Si on regarde l'entrée dans la vie active telle qu'il se passe aujourd'hui, qui est adaptée à la réalité de la société, nous avons une entrée dans la vie active au-delà de 20 ans, plutôt autour de 22 ans. Donc la réalité du système actuel, et je parle bien du système actuel, c'est si vous faites 22, 23 ans plus 43 ans, vous voyez bien que de toute façon, la réalité, c'est que nous allons avoir une activité, comme nous rentrons plus tard dans la vie active, qui va se terminer plus tard. Mais en même temps, nous avons une espérance de vie en bonne santé qui est plus longue a posteriori. Donc, nous retrouvons bien cet équilibre entre le temps d'activité et le temps de retraite, qui est un temps important aussi pour se reposer.
Que répondez-vous au président du MEDEF, on l'a entendu, qui dit mais si la seule référence, c'est l'âge, ceux qui ont fait des études vont devoir attendre 70 ans ou plus pour s'arrêter.
Il y avait un certain nombre de propositions, bon, c'est toujours un petit peu caricatural, parfois quand on veut prendre comme ça des notions extrêmement macro et puis essayer d'imaginer, les adapter à chacun. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul. En la matière, je viens de vous expliquer la réalité, peut-être pour de nombreux parents qui ont des enfants qui ont une vingtaine d'années, voient bien que ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est une réalité, c'est-à-dire un temps de travail, un temps dans l'activité qui démarre plus tard, et si on rajoute 43 ans de cotisation.
Mais si ça, ça reste à 43 ans.
Un âge à 65 ans. Oui, effectivement. Mais là, le sujet est la réalité du système actuel. Ça ne veut pas dire qu'on va travailler jusqu'à 70 ans. On entend bien qu'on est dans la caricature. Et quand bien même, les propositions qui ont été faites par le haut-commissaire tiennent compte de ces spécificités, puisque le haut-commissaire, justement, a proposé à la fois que les périodes d'activité, comme peut-être le service civique, comme peut-être des périodes d'alternance, comme des périodes de stage, puissent bénéficier de cotisations et de points, puisque le dispositif que nous allons mettre en œuvre est un dispositif par points. Donc on voit bien que sur le fond, le maillage qui existe lorsqu'on est au début de sa vie active entre les études, la formation initiale et la vie active peut être pris en compte par une valorisation d'un certain nombre de périodes, comme celle que je viens d'évoquer, d'alternance, de stage, de service civique, qui amèneront des points et qui ne donneront pas une lecture qui est celle que j'ai entendue tout à l'heure.
Vous avez parlé de
la part du président du MEDEF.
Vous avez parlé de spécificité. Il y en a énormément de spécificités. D'abord, je le rappelle, 42 régimes de retraite différents. Et puis, ça va beaucoup changer pour les professeurs, dont la retraite est aujourd'hui calculée sur les 6 derniers mois. De salaire, pour les aides-soignantes, pour les professions libérales, etc. Il va vous falloir, dans les mois à venir, concilier toutes ces particularités, Laurent Pietraszewski.
Oui, et vous avez raison de pointer cela. Et je crois aussi que nous retrouvons là l'esprit de l'intervention du président de la République en début de semaine. Le président de la République, d'ailleurs, a souligné l'importance qu'il y a à faire cette relecture sur le fond du contrat social qui nous lie avec nos enseignants, nos infirmières, nos aides-soignants, avec un certain nombre de professions pour lesquelles, effectivement, il faut bien regarder la façon dont ils sont rémunérés et le contrat social qui nous lie à eux et vérifier que les évolutions qui peuvent les concerner en matière de retraite soient prises en compte et dans une vision globale. Effectivement, on doit s'intéresser notamment à la rémunération, à la façon dont nous rémunérons nos enseignants. C'est effectivement une vraie question. Et je crois qu'il faut considérer que la réflexion que nous allons mener justement dans les mois qui viennent sur le dispositif de retraite va nous permettre d'avancer dans les échanges avec l'ensemble des professions qui peuvent être concernées, que vous avez citées tout à l'heure.
Je vous remercie Laurent Pietraszewski, député du Nord depuis Lille, aux côtés de Lionel Gougelot, que je remercie. Dans un instant, la mort des insectes, la responsabilité des pesticides et des firmes qui les produisent, avec le journaliste Stéphane Foucard.
Europe 1. C'est arrivé cette semaine, continue jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Bonjour Stéphane Foucard.
Bonjour.
Journaliste au Monde, où vous couvrez les sciences de l'environnement, vous publiez au Seuil « Et le monde devint silencieux ». Le Monde, ce n'est pas votre journal, hein, c'est la planète. Silencieux à cause d'une disparition ou disons d'un effondrement, celui des insectes, et notamment de ceux qui sont indispensables à nos cultures, à la reproduction de nos plantes, les insectes pollinisateurs, abeilles, bourdons, papillons, coléoptères. Le constat, chacun peut le faire, c'est ce que vous appelez le syndrome du pare-brise propre, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que chaque automobiliste de un peu plus de 40 ans aujourd'hui se souvient des trajets en voiture qu'il pouvait faire dans n'importe quel pays occidental il y a encore 20 ans, 25 ans. Il fallait s'arrêter toutes les deux heures pour nettoyer le pare-brise, la calandre, tout ça c'était
couvert de moucherons.
Couvert de moucherons d'impact d'insectes. Et aujourd'hui, on peut traverser la France de part en part sans avoir un seul impact sur son pare-brise.
Alors, effondrement des populations d'insectes, dans quelle proportion ? C'est évidemment impossible de les compter, les insectes, mais il y a une étude menée en Allemagne, récemment, qui donne un ordre de grandeur.
Oui, c'est une étude publiée en 2017 hein, qui a été conduite sur 63 zones protégées allemandes, hein, des zones protégées qui sont entourées par des grandes cultures et sur lesquelles on a noté un effondrement de 75% de la biomasse d'insectes volants au cours des 27 dernières années.
La biomasse, c'est le poids.
C'est le poids. Hein, c'est pas la diversité des espèces, hein, c'est des insectes au gramme. Quoi. Donc, on voit que c'est absolument massif et que ça concerne pas uniquement les abeilles, hein, le grand sujet qui a été médiatisé.
Même si pour les abeilles, c'est pas dans ces proportions.
Voilà, les abeilles, c'est pas dans ses proportions. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la recherche scientifique ces dernières années montre que, en réalité, les abeilles sont probablement les insectes pollinisateurs parmi les plus résilients, parmi les plus résistants au stress chimique qu'on impose à l'ensemble de l'environnement.
À cause de leur vie en colonie,
à cause
qui
de
les
leur
protège.
Voilà, exactement.
Et c'est le même mouvement d'ailleurs pour les oiseaux. L'alerte lancée par le Le CNRS et le Muséum d'Histoire Naturelle, il y a un an et demi, avaient fait grand bruit.
Tout à fait, bah oui. Si vous sciez la base de l'arbre, hein, si vous retirez la base de la chaîne alimentaire des écosystèmes terrestres, eh bien, mécaniquement, les étages supérieurs vont beaucoup moins bien se porter. Alors évidemment,
c'était le cri d'alarme de Nicolas Hulot à l'Assemblée nationale.
Absolument. C'est évidemment, il s'agit évidemment de problèmes complexes, multifactoriels, mais il y a une cause sous-jacente majeure et prépondérante qui est l'érosion massive de la biodiversité et en particulier de l'entomofaune.
Le cœur de votre livre, Stéphane Foucart, est consacré à la responsabilité des pesticides utilisés en agriculture contre les ravageurs et notamment à ces insecticides très puissants diffusés massivement depuis une trentaine d'années, les néonicotinoïdes qui agissent sur le système nerveux des insectes et pour lesquels les firmes agrochimiques ont déployé beaucoup d'énergie et de manœuvres en vue de masquer une évidence, c'est que les insecticides, bah, ça tue les insectes.
Alors, non seulement les insecticides tuent les insectes, mais d'autant plus quand il s'agit de ces insecticides dont le mode d'utilisation est très spécial. Et je crois que le grand public n'a pas forcément conscience de la manière dont on utilise
ces
produits. Exactement. L'enrobage de semences, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on met en terre, ce n'est plus une semence qui a une tête de graine, comme on peut se l'imaginer. C'est quelque chose qui ressemble à un petit Smarties, c'est-à-dire un petit bonbon coloré, donc une graine qui est enrobée d'une résine toxique. Ce qui fait que la plante, lorsqu'elle pousse, tout au long de sa vie, elle s'imprègne. Tous ses tissus, hein, des racines au pollen, au nectar, à la fleur, la tige, tout est imprégné par de faibles doses de ce toxique. Et les toxiques dont on parle sont les plus puissants jamais synthétisés par l'homme, les plus efficaces contre les insectes qu'on n'a jamais réussi à fabriquer.
Alors, donc, votre livre est nourri d'histoires d'influence, voire de collusions entre industriels et scientifiques. Les grandes firmes se sont comportées comme des marchands de doutes. Mais cette stratégie, elle a en partie été mise en échec, puisque ces produits sont aujourd'hui, même si ça a été fait avec retard, proscrits en Europe, interdits en France.
Alors, elle a été mise en échec dans une certaine mesure seulement, hein, parce qu'aujourd'hui en Europe, donc on a trois de ces fameux néonicotinoïdes, trois sur les cinq principaux, on va dire, hein, qui sont effectivement interdits. Il y a une action en justice qui est toujours en cours, hein, qui peut très bien conduire l'Europe à faire marche arrière là-dessus. En France, la France est le seul pays au monde dans lequel toute cette famille chimique est interdite, mais partout ailleurs, on continue à les utiliser. Et surtout, la chose, à mon avis, qui est la plus importante, c'est que les tests réglementaires qui ont permis l'autorisation de mise sur le marché de ces produits sont toujours en vigueur, ils n'ont pas évolué. Alors que tout le monde sait, et quand je dis tout le monde, c'est les autorités réglementaires elles-mêmes le savent et le publient, ces tests réglementaires n'ont pas évolué et vont permettre, vraisemblablement, dans les prochaines années, de continuer à mettre sur le marché des produits aussi problématiques.
C'est l'un des papiers que vous avez publié cette semaine dans le Monde qui montre que les recommandations de l'EFSA, l'agence européenne, n'ont pas été suivies par les États membres pour reproduire un protocole qui permette de protéger les insectes des pesticides.
Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une image très simple qu'on peut prendre pour expliquer pourquoi c'est problématique. C'est qu'aujourd'hui, on considère qu'un pesticide n'est pas toxique sur la foi de tests qui sont fondés uniquement sur la toxicité aiguë et pas sur la toxicité chronique, par exemple. Ce qui veut dire que si...
Toxicité aiguë, c'est on met une dose de pesticide, de poison directement sur sur l'insecte, on constate l'effet immédiat, que toxicité chronique, c'est de très très faibles doses, mais sur le long terme.
Exactement. En termes de toxicité aiguë, la cigarette ne pose aucun problème de santé publique. Personne ne meurt foudroyé par une cigarette après l'avoir fumée. Et alors que le vrai problème repose sur la toxicité chronique, qui peut être évaluée grâce à d'autres tests qui ne sont pas mis en œuvre.
Là où votre démonstration peut être contestée, Stéphane Foucart, c'est quand vous affirmez que les pesticides sont la cause dominante, vous avez dit tout à l'heure, prépondérante, la cause première de la mort des abeilles. La plupart des études considèrent que c'est l'une des causes, loin d'être la seule, et plusieurs considèrent que le principal facteur, il y a eu y compris des études françaises, principal facteur, c'est le varroa, qui est un gros acarien parasite de l'abeille.
Alors, il n'y a pas besoin de science
hein, pour
démonter, ouais. même pas, je crois. Les études scientifiques se contentent en général, quand elles, dans leur abstract, de nommer une liste de causes sans les hiérarchiser, simplement parce qu'il est impossible scientifiquement, avec un niveau de preuve scientifique, de hiérarchiser l'effet de ces causes dans la mesure où c'est ce qui s'est déjà produit. On comprend bien qu'on ne peut pas reproduire l'expérience en retirant une cause, en ajoutant une autre, pour pouvoir quantifier ça proprement. Mais il y a une façon très très simple de se rendre compte de ce qui est en train de se produire. On parle du varroa, mais le varroa...
On n'en parle pas tant que ça. Hein. Je ne suis pas sûr que beaucoup des auditeurs qui nous entendent en ce moment savent ce qu'est le varroa, qui est effectivement un tueur d'abeilles absolument terrible et qui sévit sur tous les continents, sauf en Australie où il... le pays a été protégé.
Mais alors, donc le varroa touche l'abeille domestique. Mais il touche pas les papillons, il touche pas les sirfs, il touche pas les bourdons. Tout ce monde est en train de s'effondrer. Le seul principe qui est capable de produire un effet aussi homogène dans toute l'entomofaune, c'est précisément quelque chose qui tue tous les insectes, ce sont les pesticides. Donc vous pouvez dire c'est le changement climatique, mais non, le changement climatique il favorise par exemple les papillons, mais les papillons ils disparaissent aussi vite que les autres.
L'urbanisation,
mais on n'a pas urbanisé 75% des campagnes, et pourtant on a 75% de la biomasse d'insectes qui a baissé. Donc il y a un simple test logique, pardon, à mettre en œuvre pour se rendre compte que on peut pas aborder cette question en raisonnant espèce par espèce, en disant bah, les papillons, c'est ceci qui les a fait décliner, les abeilles, c'est le varroa et les mauvaises pratiques apicoles, les bourdons, c'est le changement climatique. Non, il y a manifestement, à l'évidence, une cause majeure, dominante et prépondérante à ce phénomène.
Dernière question, Stéphane Foucart, plus vaste que sur les seuls néonicotinoïdes. Est-ce que l'agriculture peut se passer de pesticides? Est-ce que toutes les plantes cultivées n'ont pas besoin d'être soignées ou protégées?
Moi, je crois profondément qu'il est impossible aujourd'hui de produire une alimentation pour une masse aussi considérable de gens sans recourir à des pesticides. Mais ce que je raconte dans mon livre, et qui est quelque chose qui est absolument frappant, c'est que l'usage des néonicotinoïdes de manière préventive, systématique, n'a eu aucun effet sur les rendements. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise ces produits comme une assurance. C'est-à-dire les agriculteurs qui les utilisent payent en quelque sorte une assurance chimique au monde de l'agrochimie.
Mais sans en voir les effets.
Si on traitait avec des niveaux de traitement très très inférieurs quand il y a une attaque de ravageurs, eh bien on aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de problèmes.
Et le monde devint silencieux, comment l'agrochimie a détruit les insectes, par Stéphane Foucart. Au Seuil, merci d'être venu nous en parler.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, le philosophe Henri Peignard-Ruiz, philosophe de la laïcité, objet d'une violente polémique, il vient y répondre.
Europe 1. La suite de cette arrivée cette semaine, c'est jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Islamophobe, c'est le mot qui déchire les insoumis depuis une semaine, depuis une conférence sur la laïcité donnée par le philosophe Henri Peignard-Ruiz à l'Université d'été de la France Insoumise. Un mot dans une phrase que voici ainsi rapporté au départ par les réseaux sociaux. On a le droit d'être islamophobe, ce qui choque un certain nombre de militants pour qui l'islamophobie doit être combattue et vaut à son auteur d'être taxé de racisme. Bonjour Henri Peignard-Ruiz.
Bonjour.
Agrégé de philosophie, auteur de nombreux ouvrages sur la laïcité, dont un volumineux dictionnaire amoureux de la laïcité chez Plon, et j'ajoute, engagé de longue date à la gauche de la gauche et dans le combat contre le racisme. D'abord la phrase, elle a été tronquée, vous vouliez dire qu'il est légitime de critiquer toutes les religions, toutes les croyances ?
Oui, la phrase a été tronquée, c'est-à-dire je suis victime d'une manipulation. Je n'ai pas dit qu'il fallait être islamophobe, je n'ai pas valorisé l'islamophobie, qu'ai-je dit ? D'ailleurs, dans le début de la phrase, j'ai dit « On peut être islamophobe, athéophobe ou catophobe », c'est-à-dire que l'on peut critiquer et rejeter la religion musulmane, le catholicisme ou même l'humanisme athée. Mais qu'en revanche, et c'était la deuxième partie de la phrase qu'on s'est bien gardé de citer, on ne peut pas rejeter une personne du fait qu'elle est musulmane, c'est-à-dire du fait de sa religion, ou du fait qu'elle est athée ou autre. C'est-à-dire que j'ai voulu rappeler, afin de donner à la lutte contre le racisme une base rigoureuse et solide, j'ai voulu rappeler que le délit raciste commence à partir du moment où on met en cause des personnes comme telles pour ce qu'elles sont. Malheureusement, l'utilisation du terme islamophobie lancée par les frères musulmans veut brouiller...
Il a été lancé par les frères musulmans.
Cette utilisation veut brouiller les choses. Quand j'ai rencontré des personnes qui défendaient ce terme, je leur ai dit « Mais ce terme est ambigu. Vous le dites vous-même qu'il est ambigu. Pourquoi ne pas parler de racisme anti-musulman ? Les choses seraient claires, on condamnerait tous ce racisme anti-musulman car il s'en prend aux personnes, mais on ajouterait qu'on est libre de critiquer et de rejeter une religion. Et voilà. Mais le problème, c'est que phobie, ça veut dire à la fois peur irraisonnée, peur irrationnelle, peur panique souvent, assorti d'un rejet.
Ouais, donc vous saviez, vous l'avez d'ailleurs écrit dans votre livre, dans votre dictionnaire amoureux, Henri Peignard-Huys, vous savez à quel point ce terme est piégé, à quel point il est équivoque, comment les responsables religieux et des militants communautaires l'utilisent pour condamner ou dénoncer toute critique de leur pratique religieuse. Et vous l'utilisez, islamophobie ?
Non, mais je ne l'ai pas utilisé en bonne part. Il faut être précis. Mmh. Quand on est dans un débat intellectuel, il faut être rigoureux. Ce que j'ai voulu dire, c'est que dans son acception originelle, simple, la notion d'islamophobie signifie le rejet de l'islam, donc d'une religion, et pas d'une personne. Et que par conséquent, elle ne peut pas recouvrir un acte raciste. Certains ajoutent, mais ça recouvre aussi désormais le rejet des musulmans comme tels.
Donc c'est raciste.
Donc ce serait raciste, oui. mais je conteste cela parce que c'est quand même une manœuvre destinée à empêcher la critique des religions.
Sur ce terme, je rappelle le livre définitif écrit par Charb, le directeur de Charlie Hebdo, quelques jours avant son assassinat, cette lettre ouverte aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes. Et je vais citer Charb, le mot islamophobie contente à la fois les racistes, les islamistes radicaux, les politiques démagogiques et les journalistes fainéants. Donc il faudrait ne plus l'utiliser.
Oui, mais il faut en faire une critique, il faut en faire une déconstruction. Il faut dire que critiquer une religion, ce n'est pas rejeter une personne du fait de sa religion.
Dire que le voile est un instrument de soumission sexiste, par exemple,
oui.
est une opinion que l'on peut évidemment défendre. Est-ce que c'est islamophobe ?
Ben non, parce qu'il n'y a pas que l'islam radical qui se dresse contre le voile. Souvenez-vous de Tartuffe dans Molière. Couvrez ce sein que je ne saurais voir par de pareils objets. Les âmes sont blessées oui. et cela fait venir de coupables pensées. Les trois religions monothéistes contemporaines de sociétés patriarcales et machistes ont sacralisé la domination de l'homme sur la femme et la réduction de la femme à un objet possédé par l'homme et rendu la femme responsable de la séduction alors que c'est à l'homme de maîtriser ses pulsions et que la charge de la maîtrise incombe à l'homme alors que là, dans l'inversion patriarcale machiste, effectivement, on oblige la femme à cacher son corps. Donc effectivement, il ne s'agit pas de s'en prendre uniquement à l'islam, parce que les trois religions du livre, il n'y en a pas une pour relever l'autre sur ce plan.
Oui, sauf que la religion catholique a évolué dans ses pratiques,
oui, mais elle a évolué,
alors que l'islam semble faire le chemin inverse.
Oui, mais elle a évolué, contrainte et forcée. Il ne faut pas croire que l'Occident chrétien a spontanément abandonné la volonté de dominer les corps et les âmes. Il a fallu quand même des luttes. Il a fallu que la Révolution française substitue la liberté à la contrainte, à la soumission. Il a fallu qu'on délivre la loi civile de la loi religieuse. Donc il ne faut pas laisser croire que la civilisation chrétienne aurait sécrété spontanément l'émancipation laïque. C'est dans des luttes que ça s'est fait.
Entre autres réactions, après votre conférence, vous avez vu peut-être ce texte des élus insoumis de Saint-Denis. Combattre l'islamophobie est un devoir. Peignard-Huys nous dit qu'on peut s'en prendre à des religions mais pas à des personnes. Mais en quel endroit de l'univers peut-on croiser au détour d'une rue une religion afin de s'en prendre à elle au calme ? Nulle part ailleurs que dans le ciel éthéré des idées. Peu importe ce que peut être l'islamophobie en théorie, puisque nous la subissons en pratique. Que répondez-vous à cela, Henri Peignard-Huys ?
Je réponds que ces militants de Seine-Saint-Denis veulent à tout prix qu'on parle d'islamophobie. Moi, je ne veux pas qu'on parle d'islamophobie. Je veux qu'on parle de racisme anti-musulman.
Ils le font pourquoi ? Pour dissuader la critique de pratiques religieuses qui peuvent s'imposer par la contrainte ou l'intimidation ?
Vous posez la bonne question et vous esquissez la bonne réponse. À savoir qu'effectivement, lorsqu'on veut culpabiliser une critique de la religion, qu'est-ce qu'on fait ? On sous-entend qu'elle est raciste. On ne peut pas accepter ce piège idéologique. C'est eux qui jouent sur les mots, ce n'est pas nous. On ne peut pas accepter que la critique de la religion soit immédiatement interdite parce que c'est la réintroduction du délit de blasphème. Donc, nous gagnons en clarté dans le combat antiraciste lorsque nous utilisons deux notions et que nous évitons l'ambiguïté qui est, comme disait Spinoza, l'asile de l'ignorance. Dans l'asile de l'ignorance, effectivement, si on brouille tout, effectivement, après, on peut faire passer pour racisme ce qui ne l'est pas.
Dernière question, Henri Peña-Ruiz. Je disais tout à l'heure à quel point cette polémique avait déchiré la France insoumise et une bonne partie des militants insoumis et provoqué de l'embarras aussi chez les dirigeants, chez les élus qui se sont assez peu exprimés. Vous avez été en contact après cette polémique avec des élus, des responsables insoumis ?
Écoutez, je suis un insoumis. Adrien Quatennens est mon ami. Je peux vous dire que l'écrasante majorité de la France insoumise est laïque, républicaine, et qu'elle n'a pas de reproche à se faire. Certes, comme c'est un mouvement et non pas un parti, il y a des personnes qui sont entrées dans la France insoumise et qui n'ont pas nécessairement les positions de la majorité. Un secrétaire d'État a manqué une belle occasion de se taire.
Julien de Normandie,
qui m'a taclé en disant que c'était pas bien, etc. Il a même pas vérifié les sources. Il a même pas vu qu'il y avait une manipulation. Il a même pas vu que la citation sur laquelle il s'est acharné résultait d'un découpage pour me noircir. C'est pas digne du travail d'un ministre ou d'un secrétaire d'État de la République que de faire ce sale travail, de s'en prendre comme ça à quelqu'un et de lui attribuer immédiatement une intention raciste. C'est assez scandaleux et je tiens ici à protester contre ce monsieur.
Merci Henri Peña-Ruiz. Je rappelle votre dictionnaire amoureux de la laïcité. C'est paru il y a 5 ans déjà maintenant chez Plomb, mais ça a été plusieurs fois réédité. Merci à vous.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, Victor Yamas, l'une des révélations de la rentrée littéraire avec un premier roman qui nous parle de la condition des femmes à la fin du 19e siècle, Le bal des folles.
Europe 1. De 9h à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour cette arrivée cette semaine sur Europe 1.
Le bal des folles de Victor Yamas, c'est un premier roman en tout point remarquable qui nous parle de la condition des femmes à la fin du 19e siècle. On est en 1885, Eugénie Cléry est une fille de très bonne famille, un père notaire, un frère qui va le devenir. Les trois générations de Cléry habitent un appartement du tout nouveau boulevard Haussmann. Mais il y a une présence supplémentaire qu'Eugénie est seule à percevoir, celle de son grand-père décédé qui lui apparaît et parfois qui lui parle. Apprenant cela, son père la fait aussitôt interner à la Salpêtrière dans le service du docteur Charcot et de sa fidèle intendante Geneviève, où elle rejoint des dizaines d'autres femmes aliénées, considérées officiellement comme folles ou hystériques. En réalité, on y enferme toutes celles qui sortent du cadre et que les hommes, père ou mari, voulaient voir disparaître. Des femmes exhibées une fois l'an à la mi-carême devant le tout Paris lors d'une soirée dansante et costumée que la presse a surnommée le bal des folles. Bonjour Victor Yamas.
Bonjour Patrick Cohen.
C'est une histoire folle que ce bal des folles, mais c'est une histoire vraie. Le bal, Charcot, les aliénés de la Salpêtrière, les séances d'hypnose, tout cela a réellement existé.
Tout à fait. L'hôpital de la Salpêtrière a commencé comme une prison au XVIIe siècle, puis c'est devenu un asile pour femmes, puis c'est devenu un hôpital. Fin XIXe, avaient lieu en effet les travaux de Charcot sur l'hystérie qu'on connaît tous, et notamment ce fameux bal des folles, c'est-à-dire que toutes les femmes qui étaient internées à la Salpêtrière pour hystérie, épilepsie, schizophrénie, étaient déguisées, mises dans des costumes absolument loufoques. Et le tout Paris mondain venait regarder ces femmes dans la salle de l'hospice. Donc il y avait une sorte de grande mise en scène au sein même de l'hôpital, ce qui en effet semble totalement absurde et incongru aujourd'hui.
En attendant d'éventuelles convulsions évidemment et de guetter des accès d'hystérie, ça raconte une médecine qui se donnait en spectacle puisque les séances d'hypnose, c'est la scène d'ouverture du livre, étaient publiques, on venait voir les convulsions de ces pauvres femmes.
Oui, il y avait quelque chose de l'ordre du grand divertissement. Pour moi, j'apparente ça à une forme de communication de la part de Charcot, c'est-à-dire que pour attirer l'intérêt des foules à ses travaux, il fallait mettre en scène ces femmes. Voilà, donc en fait, on en faisait presque des actrices qu'on mettait sur une estrade et à qui on faisait faire un peu tout et n'importe quoi, parce que comme elles étaient sous hypnose, elles étaient à la merci en fait de ces médecins comme des pantins.
Et c'est une médecine qui ne semble effectivement avoir aucune considération, aucune empathie pour ses patients. On a l'impression que Charcot et son équipe, Babinski, Gilles de la Tourette, considèrent les malades comme des choses.
Tout à fait. Je pense que aussi cette génération de femmes, vraiment fin 19e, puisque le bouquin se déroule en 1885, est la dernière à pâtir des lacunes de la neurologie, puisqu'on n'a pas encore basculé vers l'étude de la psyché et la naissance de la psychanalyse avec Freud. Donc il y avait quelque chose où en fait on pensait vraiment que ces crises d'hystérie étaient liées au sexe, de toute façon, des femmes, puisque l'hystérie venait principalement de l'utérus ou des ovaires.
Et on faisait des compressions sur les ovaires pour calmer les hystériques. Freud, qui a d'ailleurs été un élève de Charcot, qui a séjourné auprès de lui. Elle est bien déboulonnée dans votre livre, La statue de Charcot. Hein.
Oui. Après, l'idée, ce n'était pas non plus de taper sur Charcot, ni de le mettre trop en avant. Et je voulais parler des femmes avant de parler du docteur.
Mais on sent que vous avez plus de sympathie pour les spirites que pour les médecins.
Oui, j'avais aussi envie d'aborder ce thème-là, puisque le spiritisme était notamment très en vogue fin 19e aussi. Il y avait une grande passion pour les tables tournantes, pour les esprits. Victor Hugo aussi s'y en est beaucoup intéressé.
Mais pour la bonne société de l'époque, les esprits, c'est le diable. Et ceux qui sont possédés par le diable, on les enferme.
Oui, évidemment que toute la pensée chrétienne déplorait cet engouement pour les spirites. Ouais.
Mais là n'est pas l'essentiel, Victoria Mas. L'essentiel dans votre livre, c'est deux magnifiques portraits de femmes. Eugénie, dont on vient de parler, qui va se battre de toutes ses forces pour quitter cette prison. Et Geneviève, qui y vit depuis 20 ans. Geneviève, c'est l'intendante, on l'a dit, dévouée corps et âme à Charcot, et dont la vie va basculer à cause d'Eugénie.
Oui, je trouvais ça intéressant de partir du point de vue de l'intendante et non pas du point de vue d'une patiente, d'avoir vraiment un personnage central qui fasse le lien entre les médecins qu'elle admire et ces femmes qu'elle ne voit plus comme des femmes, mais comme des aliénées, comme des folles. Et l'arrivée d'une nouvelle, en effet internée, qui arrive de l'extérieur, va l'amener à changer son regard sur ces femmes. Donc je voulais suivre vraiment un personnage dans un changement moral, psychologique et spirituel.
La trame est formidablement romanesque et puis immense qualité de votre roman, votre écriture, votre style descriptif, précis, dense. À chaque scène, il y a des visages, il y a des gestes, des décors, des odeurs, des bruits. Je rappelle, c'est un premier roman, vous avez 31 ans. Vous êtes fixé des règles d'écriture ?
Pour ce roman, j'ai été résolument structurée. Je voulais savoir exactement où j'allais du début à la fin. Donc j'ai vraiment décliné chapitre par chapitre, scène par scène, ce qui allait se passer. Je l'ai écrit un peu comme un scénario, avec vraiment une scène d'exposition, un élément déclencheur, des obstacles, un dénouement.
Vous avez travaillé dans le cinéma ?
Oui. Et je pense que c'est pour
c'est
ça que ça a influencé. Oui.
Donc, à la lecture du livre, on imagine très bien le film que ça pourrait être. C'est aussi comme ça que vous l'avez écrit ?
Pas dans ce but-là, mais en effet, j'étais très inspirée par toute l'iconographie de la Salpêtrière et par les images et les portraits de femmes que j'ai vues. Donc l'aspect visuel était très important et j'espère est ressorti aussi dans ces pages.
Est-ce que vous pouvez nous en lire ?
Oui, avec plaisir. Geneviève sent Louise nerveuse. L'adolescente marche tête baissée, les bras tendus le long du corps, le souffle rapide. Les filles du service sont toujours anxieuses de rencontrer Charcot en personne, d'autant plus lorsqu'elles sont désignées pour participer à une séance. C'est une responsabilité qui les dépasse, une mise en lumière qui les trouble, un intérêt si peu familier pour ces femmes que la vie n'a jamais mise en avant qu'elles en perdent presque pied, à nouveau. Quelques couloirs et portes battantes plus tard, elles entrent la loge attenante à l'auditorium. Une poignée de médecins et d'internes masculins attendent. Carnets et plumes en main, moustaches chatouillant leurs lèvres supérieures, corps stricts dans leurs costumes noirs et leurs blouses blanches, ils se tournent en même temps vers le sujet d'étude du jour. Leur œil médical décortique Louise, ils semblent voir à travers sa robe. Ses regards voyeurs finissent par faire baisser les paupières de la jeune fille.
Voilà, et suit cette séance d'hypnose devant un public à la fois d'étudiants en médecine, de journalistes, d'officiels. Ça vient facilement ou c'est beaucoup de travail, Victoria Mas ?
Je me suis évidemment beaucoup documentée pour être au plus près de ce décor qui existe toujours aujourd'hui. Mais après, je ne souhaitais pas écrire ni un roman historique, ni un essai. Donc une fois que j'avais vraiment le décor et l'arrière-plan et que j'avais à peu près compris ce qui devait se passer sur place à l'époque, je me suis vraiment imposée de travailler au mieux les personnages en fait, qui pour moi étaient centraux.
Des personnages qui sont pour beaucoup, on l'a dit, des personnages de femmes, c'est un livre résolument féministe qui décrit une société dominée par les pères et les époux et où les femmes n'ont pas la main. Eugénie Cléry, cette jeune fille qui est l'héroïne de votre livre, elle tente de gagner sa liberté, c'est une adolescente très libre et très soucieuse d'indépendance. Et la Salpêtrière, écrivez-vous à ce moment-là, a été un dépotoir pour toutes celles nuisant à l'ordre public, un asile pour toutes celles dont la sensibilité ne répondait pas aux attentes, une prison pour toutes celles coupables d'avoir une opinion. Il faut se rappeler de ça.
Oui. Quand moi, je me suis rendue sur les lieux de la Pitié-Salpêtrière et que je regardais les bâtiments et cet immense parc et cette chapelle avec cette coupole sombre qui domine le reste, j'ai senti qu'il y avait en effet quelque chose d'assez chargé dans l'atmosphère. Donc je pense que tous ces spectres-là sont encore, enfin, du moins, présents aujourd'hui de façon assez palpable.
Le roman vient de paraître. Il a déjà été récompensé par deux prix. Le prix Première Plume, décerné par un panel de lecteurs et de libraires, et le prix Stanislas du premier roman par un jury de professionnels.
Oui.
En attendant la suite.
Je suis ravie, ça dépasse mes attentes, et je suis surtout très heureuse que ces deux prix mettent en valeur en fait, des premiers romans.
Premier roman, coup de maître, je le dis aux auditeurs, c'est un roman que vous ne lâcherez pas avant de connaître le sort et le destin d'Eugénie Cléry. Merci beaucoup Victoria Mas, Le bal des folles, votre roman, premier roman chez Albin Michel. Merci à vous.
Merci beaucoup. Europe
1. Ainsi s'achève C'est arrivé cette semaine. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure, pour C'est arrivé demain. Et je vais laisser la place dans quelques minutes après le flash de 10h à Olivier Duhamel. Bonjour Olivier.
Bonjour Patrick Cohen, ravi de vous retrouver.
Et moi aussi, Mediapolis.
Mediapolis aujourd'hui.
Premier numéro de rentrée.
Absolument, avec un grand historien et un grand économiste qui l'un et l'autre viennent d'écrire sur le populisme. Yann Algan, l'économiste, et Marc Lazare, l'historien. Ça va être bien.
A tout de suite, excellente journée à l'écoute d'Europe 1.